la notion de musée provient auparavant d'une notion de collection. Et cette notion de collection, liée à un bâtiment, elle n'est pas née en France en réalité, elle a eu au moins plusieurs éléments prédécesseurs qui l'ont annoncé. Mais jamais comme en France, comme au Louvre, elle n'a pris une telle dimension, et même si les princes florentins ont aménagé un palais, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, c'est relativement différent, pour y mettre leur collection, jamais comme au Louvre il y a eu une telle volonté politique, et bien avant la Révolution, d'y installer des collections qui avaient été réunies pour le plaisir, la délectation peut-être, pour l'enseignement surtout, car je pense que c'est aussi un des éléments qu'on oublie trop actuellement. On nous explique que le musée est un élément de délectation, un élément d'ailleurs très médiatique, comme on dit maintenant. On oublie qu'avant tout, c'est quand même un élément d'enseignement. Et ça, c'est une des choses qui est peut-être à la fois la force médiatique, parce que la télévision, c'est très important, mais en même temps, la grande faiblesse des musées de France, qui sont, à mon avis, voilà, de tous les musées d'ailleurs, qui à mon avis sont actuellement surévalués par rapport à la capacité d'enseignement, à la capacité d'éducation, à la capacité d'élévation de l'esprit qu'ils peuvent donner, et c'est probablement un des éléments de leur faiblesse dont on commence à sentir quelques éléments depuis 2 ou 3 ans, et on voit très bien que les musées, malgré un effort médiatique très important, ne sont certainement pas aussi solides qu'ils ne laissent croire, et peut-être a-t-on oublié que les conservateurs n'ont pas qu'un rôle d'animateur, mais aussi un rôle scientifique et un rôle d'étude. Peut-être l'a-t-on un petit peu trop oublié ces dernières années, malgré de très belles expositions, malgré des catalogues de plus en plus pesants, je dirais plutôt même que riches, on a peut-être un peu oublié qu'il y avait tout un aspect d'instruction, de science derrière. Les conservateurs oublient certainement qu'ils sont avant tout des savants, et ça c'est un terme qui aujourd'hui fait vieillot, on préfère dire des scientifiques, ce que je n'aime pas, je crois qu'ils doivent être avant tout des savants, et ensuite des animateurs, c'est-à-dire qu'ils doivent ouvrir non seulement leur collection pour les montrer, mais aussi pour montrer en quoi elles sont importantes et en quoi elles apportent quelque chose, un sentiment d'idéal, un sentiment du beau, un sentiment de la perfection qu'on a un peu tendance à oublier. Toujours est-il que la notion de collection est très ancienne, et pour ceux qui ont fait des études classiques, ils se souviennent d'avoir peiné sur Cicéron en latin, et souvenez-vous que Verrès était un grand collectionneur, cet homme dont nous disons le plus grand mal à travers Cicéron, qui n'était au fond qu'un avocat qui défendait une cause, et qui donc était comme tous les avocats injuste vis-à-vis de Verrès, même si celui-ci avait détourné des collections, c'est vrai, mais de ce point de vue-là, Cicéron n'avait rien à lui envier, et Verrès était un grand collectionneur, probablement le premier collectionneur dont nous soyons sûrs, puisque nous avons les textes de Cicéron qui le montrent, et le premier collectionneur privé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres collections. Et il faut se rappeler que les empereurs romains, César, Auguste, entre autres, avaient eux-mêmes accumulé de grandes collections d'antiques, et que ces collections même avaient été installées dans les palais romains, on le sait parfaitement par Tacite, avaient été installées dans des galeries qui étaient ouvertes au public plusieurs fois par semaine, et les Romains montraient, les empereurs tenaient à présenter leurs collections. Alors, est-ce que c'est là une notion de musée? Je dirais plutôt que c'est une libéralité à ce niveau-là. C'est simplement le plaisir de montrer que l'empereur a, par ses conquêtes, accumulé un certain nombre d'éléments qui sont des éléments prestigieux. Très importante notion, on y reviendra tout à l'heure, en quoi les choses sont prestigieuses, mais surtout, par ses conquêtes, il peut les montrer au public et montrer par là qu'il est un homme puissant, qu'il est un homme qui a conquis non seulement le pays, la civilisation dans laquelle il se trouve, mais aussi d'autres civilisations, et qu'il étend par ses collections son pouvoir sur les hommes qui viennent voir cette collection, mais aussi sur les esprits des autres civilisations. Donc la notion de collection, elle est relativement ancienne. Et une exposition qui a eu lieu l'année dernière le montrait très bien, c'était l'exposition au Louvre, les trésors de Saint-Denis, probablement la plus belle exposition et la plus importante de ces 10 dernières années, car cette exposition montrait que l'abbaye de Saint-Denis n'était jamais que l'héritière de siècles et de siècles de collectionneurs, car, vous l'avez vu, il y avait là-dedans des œuvres qui provenaient de l'Égypte, non seulement ptolémaïque, mais bien plus ancienne, des œuvres qui provenaient des Grecs, mais aussi des œuvres qu'on était allé chercher jusqu'en Chine. Souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu, cet extraordinaire jeu d'échecs en ivoire que l'on est allé chercher là-bas jusqu'en Chine. Alors cette exposition du trésor de Saint-Denis montrait deux diversités. La diversité de provenance des œuvres. Elles étaient aussi bien égyptiennes, grecques, chinoises, européennes d'ailleurs. Elles étaient donc relativement diverses par leur origine, diverses par leur support. Il y avait beaucoup de manuscrits. Le manuscrit, on reviendra aussi sur son importance tout à l'heure, mais aussi il y avait là-dedans des sculptures, des peintures, quantité de médailles, d'intailles et d'objets d'art, cristaux, or, argenterie. Tout cela montrait l'extraordinaire diversité de ces collections. Et en même temps, même si tous ces objets, vous avez pu le constater, étaient christianisés d'une façon ou d'une autre, en réalité, ils ne dissimulaient pas leur origine païenne ou leur origine de différentes civilisations. Car c'est ça que les abbés de Saint-Denis voulaient montrer, c'est qu'il y avait, en fait, chez eux, le souci d'accumuler tout ce que les civilisations précédentes avaient produit de plus beau. Et là, la notion d'esthétique entre, car elle démontre qu'il y a un génie propre à chaque civilisation. C'était en ça que cette exposition était très importante, elle montrait qu'il y a déjà, chez les abbés de Saint-Denis, à travers les rois de France, qui sont les grands fournisseurs des abbés de Saint-Denis, il y a un souci de montrer qu'au-delà du christianisme, les civilisations précédentes ont elles-mêmes eu un génie très important, un génie dont on a intérêt à se souvenir, car il servira d'exemple pour plus tard. Le bel exemple, c'était le fameux bassin en porphyre, bassin dont on sait parfaitement qu'il est d'origine égyptienne, qui a été ensuite enlevé par les Romains et qui a été christianisé puisqu'on en a fait le bassin du baptême de Clovis, ce qui est complètement faux, mais malgré tout, il a été donc récupéré ainsi. On sait, depuis que ce bassin est formé, que c'est une œuvre d'art exceptionnelle, donc elle doit servir à l'instruction, à l'éducation, à l'élévation de l'âme de ceux qui viendront le voir. En même temps, n'oubliez pas, et c'est là que je reviens sur les manuscrits, que les abbés de Saint-Denis sont aussi les grands pourvoyeurs en manuscrits à peinture dès le XIe siècle, les premiers grands pourvoyeurs. Eux-mêmes, qui accumulent le beau, veulent en même temps transmettre le beau, veulent créer aussi beau. Ils n'ont pas beaucoup de support, le haut Moyen-Âge n'est pas riche en support, on a le vélin, on a la peinture, on a des influences diverses qui viennent, et l'abbaye de Saint-Denis est une école dans l'humour, est une école d'écriture, donc qui, par-delà l'accumulation des richesses, elle-même est productrice de richesses, et parfaitement consciente qu'elle produit des œuvres d'art à travers ses enluminures et ses peintures. On le sait très bien. Il n'y a pas que les enluminures, n'oubliez pas que le Moyen-Âge a été grand producteur de peintures de chevalet, on le sait parfaitement par les inventaires après décès, par les inventaires du roi. Malheureusement, pour diverses raisons, ces peintures de chevalet ont disparu. D'abord parce que le XVIe siècle, les protestants qui refusaient les images ont détruit une grande partie de ces peintures de chevalet, et que dès le XVIIe siècle, ces peintures considérées comme gothiques étaient tout simplement mises au feu, jetées, le XVIIIe siècle ayant de temps en temps ressorti, s'étant réintéressé au gothique, mais jusqu'au XIXe siècle, au fond, ces peintures de chevalet du Moyen-Âge, on les a jetées, on s'en est servi pour des tas de choses, et il a fallu qu'on redécouvre au XVIIIe siècle ce que les primitifs italiens avaient fait pour se rendre compte qu'on avait détruit une grande partie de l'art français. Donc, il y a réellement une peinture de chevalet, mais qui n'a laissé que très très peu de traces en France, ce qui est regrettable. À côté de ça, il y a quand même les enluminures, et à côté de l'abbaye de Saint-Denis, il y a aussi plus tard l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, puis même Saint-Martin-des-Champs, qui auront de véritables écoles d'enluminures, qui ne sont pas destinées qu'à transmettre des textes, mais à créer toujours plus beau, donc toujours cette notion d'élévation de l'âme en même temps que accumulation de richesses. Les rois mérovingiens, dont nous moquons beaucoup, ces rois fainéants, avaient eux-mêmes des collections très importantes. On connaît les collections de Childebert, le fils de Clovis, de Chilpéric, le petit-fils de Clovis. Ils avaient des collections un peu dans cette idée des empereurs romains, c'est-à-dire que ce que l'on va conquérir chez les autres, il faut le montrer chez soi pour montrer qu'on est un homme plus puissant et que l'on n'a pas conquis que des territoires, mais qu'on a conquis aussi la civilisation que l'on est allé abattre chez les autres. Donc, les souverains mérovingiens, les carolingiens, mais là on n'est plus sur le territoire français, mais Charlemagne a acquis des collections. Souvenez-vous ce jeu d'échecs qui a été acquis, ce jeu d'échecs chinois acquis par l'abbaye de Saint-Denis et en fait rapporté par des émissaires de Charlemagne qui l'ont rapporté en Europe. Donc là c'est bien l'exemple même de Charlemagne envoyant des émissaires pour accumuler des œuvres d'art. Donc on sait parfaitement qu'il y a une tradition de la collection qui a ses diverses formes, mais toujours cette notion d'élévation de l'âme à travers les autres civilisations, même si au fur et à mesure on christianise les objets. Les rois capétiens ont plus ou moins poursuivi cette tradition. En tous les cas, elle renaît avec Philippe Auguste au début du XIIIe siècle. Il n'y a aucun doute que Philippe Auguste ne s'est pas contenté de former le royaume de France à peu près tel que nous le connaissons aujourd'hui, d'établir la monarchie capétienne, mais en même temps, il a énormément soutenu les écoles d'enluminure et c'est probablement le premier souverain qui, lui-même, en dehors des abbayes, réunit autour de lui des peintres et des enlumineurs pour avoir sa propre école. Tout ça va se développer avec ses descendants et on peut dire qu'à partir de la fin du XIIIe siècle, l'enluminure sort du simple domaine religieux où elle se trouvait, des abbayes, pour entrer dans le domaine profane, c'est-à-dire elle trouve ses mécènes non seulement à travers le monde religieux, mais à travers le monde profane, à travers la cour, qui commence à avoir elle-même à financer, à faire du mécénat autour des peintres et des enlumineurs. Alors, la particularité de ce que nous étudions aujourd'hui, ça va être que cette collection, ces collections qui se forment, vont rencontrer un lieu exceptionnel, un palais exceptionnel, le Louvre, qui lui-même va se former d'ailleurs très lentement, mais vous allez voir que c'est pratiquement dès le début de la formation du palais du Louvre que la notion de collection va y être jointe. C'est à partir de Charles V que ça va se former. Le Louvre est construit à la fin du XIIe siècle et aménagé probablement au tout début du XIIIe siècle par Philippe Auguste. C'est une forteresse avec un donjon central, donjon qui n'est pas seulement un lieu de défense. N'oubliez pas que ce donjon est ce qu'on appelle le caput regni, le chef du royaume. C'est-à-dire que ce donjon du Louvre, c'est là que les vassaux du roi, chaque année, viennent prêter serment. C'est en même temps le symbole de la royauté, ce donjon. Et c'est là que le roi met ce qu'il a de plus précieux. Et quand on parle toujours du trésor gardé par les Templiers, c'est pas seulement les finances royales, c'est aussi les trésors, c'est-à-dire les collections royales qui sont dans ce trésor et qui sont régulièrement mises dans le caput regni, dans le chef du royaume, dans ce donjon. En fait, ces collections royales sont complètement liées à l'idée de monarchie. De monarchie, il ne s'agit pas encore de droit divin. Il passe, tout ça viendra plus tard, mais tout ça va y être lié, mais en fait d'une monarchie de plus en plus importante et de plus en plus symbolique. Et symbolique à travers ce donjon, car le Moyen-Âge est une période de symboles très importants, mais aussi à travers ces collections royales qui y sont enfermées et pour lesquelles on a le plus grand respect, donc que l'on protège avant toute chose. Vous savez bien que avant de partir en croisade, Philippe Auguste donne la garde du trésor royal à ceux qui sont les plus puissants, les Templiers, donc il tient à ce que ce soit protégé même avant les Parisiens. Le trésor doit être protégé et ce trésor s'est formé de manuscrits, d'œuvres d'art, d'archives qui sont ce qu'il y a de plus important pour la civilisation et on en est parfaitement conscient. C'est donc Charles V qui, lui, va faire aménager comme résidence le palais du Louvre, le château du Louvre, dit-on à l'époque, puisque au fond, jusqu'à la construction de l'enceinte de 1358, c'est-à-dire la construction de l'enceinte de Charles V, le Louvre est en dehors de l'enceinte de Philippe Auguste, donc, puisque c'est en dehors de la ville, on doit dire le château, et ça n'est qu'à partir du moment où il est à l'intérieur de l'enceinte dans la ville que l'on dira le palais du Louvre. Donc, à partir de Charles V, on peut commencer à parler du palais du Louvre. L'aménagement grâce aux fouilles de Michel Fleury dans la cour carrée du Louvre, on commence à mieux le connaître, à mieux cerner comment ça s'est fait. La datation exacte est assez difficile à suivre parce que les travaux se sont poursuivis entre 1360 et 1370 et ça a duré assez longtemps. Toujours est-il que Charles V fait aménager dans ce palais des salles, des appartements, des pièces diverses, des escaliers, la fameuse tour avec l'escalier de Raymond du Temple qui se terminait par les statues de Saint-Michel et de la Vierge. Tout ça, c'est assez connu. Et puis surtout, une tour, la tour de la Fauconnerie, la tour qui se trouvait au nord-est du Louvre, cette tour de la Fauconnerie, spécialement aménagée pour recevoir les trésors du roi, c'est-à-dire essentiellement ce qu'on appelle la librairie de Charles V. Et pour ceux qui s'en souviennent, je crois que c'était vers 1976, il y avait eu à la Bibliothèque Nationale une très belle exposition sur la librairie de Charles V, où l'on avait réuni ce qu'il subsistait, c'est-à-dire environ 300 manuscrits, qui subsiste des 973 manuscrits enluminés de la librairie de Charles V. Vous savez ce que sont devenus ces 973 manuscrits qui d'ailleurs s'étaient accrus par la suite. En fait, sous Charles VI, le duc de Bedford les a récupérés pour le roi, le faux roi Henri V, et ils ont été en grande partie transportés en Angleterre, où ils se trouvent toujours dans les collections royales anglaises, puisqu'ils n'ont pas été pillés, mais achetés, ce qui est un peu une différence, on a trop tendance à dire que ça a été pillé, mais en fait le duc de Bedford les avait payés, et ça fait quand même une grosse différence, ce qui fait qu'ils sont en grande partie toujours dans les collections royales anglaises, en partie à la British Library, et en partie dans les collections de la famille royale d'Angleterre. Mais on avait pu les montrer, mais au moins ceux qui subsistent, je crois que c'était vers 75-76, à la Bibliothèque Nationale. Donc on aménage un lieu, et ça alors évidemment, on sait très bien comment il est aménagé, puisqu'on a les comptes du musée, les comptes des architectes, on sait très bien que Charles V fait faire des volets basculants de façon que la lumière ne vienne pas abîmer les manuscrits, qu'il fait faire des grillages aux fenêtres aussi pour que les oiseaux ne puissent pas entrer et salir de leurs petites pattes, comme dirait Cyrano, les manuscrits, tout cela étant parfaitement aménagé avec du bois spécial pour que l'on puisse, avec des placards, pour que l'on puisse venir voir ces manuscrits avec des écritoires aussi, et ainsi autour du roi, la cour peut venir voir les collections royales et le peuple de Paris est parfaitement tenu au courant de tous ces travaux, on le sait par les chroniqueurs, on tient à rappeler qu'il y a ces collections royales. Avec, évidemment, la guerre de Cent Ans, avec les grandes difficultés, il n'est plus question de poursuivre, ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que les descendants, entre autres, on sait que Charles VI a accumulé quantité d'œuvres, mais que tout ça a été plus ou moins dispersé. Et, en fait, il faut attendre la fameuse année 1528, si importante pour Paris, année où François Ier, de retour de sa captivité de Pavie, sa captivité d'Espagne, eh bien François Ier revient à Paris en 1528, et en 1528, il déclare qu'il fera dorénavant de sa bonne ville de Paris sa résidence principale, et que pour mieux y loger, il y fera aménager son chastel du Louvre, et c'est ainsi qu'il demande à Pierre Lescot de lui construire un bâtiment, bâtiment qui n'est pas indifférent, car ce bâtiment de Pierre Lescot, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Si on se trouve dans la cour carrée, qu'on le regarde bien, vous savez, il s'agit dans la cour carrée de la partie ouest de la cour carrée, la partie sud-ouest de la cour carrée, il ne faut regarder que la galerie qui se trouve entre le pavillon du roi et le pavillon Le Mercier, et là, on voit parfaitement quelque chose qui, au premier abord, ressemble un peu au château de Cheverny, si on ne regarde pas plus loin. Mais si on analyse ce qu'a fait Pierre Lescot, qui n'était pas architecte, qui était un philosophe humaniste, comme on faisait à cette époque-là, eh bien, on se rend compte que Pierre Lescot est allé bien au-delà de ce qu'on avait fait dans les châteaux de la Loire. En effet, il a fait une demeure, telle que lui avait demandé François Ier, une demeure, comme on dirait aujourd'hui, signifiante. N'oubliez pas que François Ier, comme son fils Henri II, comme plus tard Henri IV, auront toujours pour ambition de devenir empereur. Ça, ce sera leur ambition rentrée, mais en tous les cas pour François Ier, bien avoué, puisqu'il s'est présenté comme candidat à l'Empire. Pour Henri II, il n'a pas le temps de le faire, mais il l'a dit plusieurs fois, et pour Henri IV, lui non plus, Ravaillac ne lui laissera pas le temps de le faire, mais c'était l'ambition d'Henri IV de reprendre l'Empire et de ramener la capitale de l'Empire à Paris. Donc ça, ça sera les volontés, et pour cela, il faut au roi de France une demeure signifiante. Et que fait Pierre Lescot ? D'abord, il abandonne ces critères du Moyen-Âge, il abandonne d'abord la haute toiture qui rappelle trop le Moyen-Âge, le château fort, pour adopter la toiture en comble brisé, beaucoup plus élégante, et qui en même temps n'alourdit pas le bâtiment qui est en dessous, et qui permet de mettre en haut à l'attique toute une série d'œuvres sculptées, et si on regarde bien ces œuvres sculptées, qui ne sont plus la glorification de Dieu ou de la religion, mais à la glorification des demi-dieux, des dieux de l'Olympe, dieux de l'Olympe qui représentent le roi. Et là, on voit qu'on s'installe peu à peu à travers ces sculptures à relief, qui sont d'ailleurs extraordinaires, ces sculptures de Jean Goujon, on voit qu'on s'installe peu à peu dans une monarchie de droit divin où le roi va être un demi-dieu. Et tout ça, d'ailleurs, va aller en s'accroissant jusqu'à la demeure de 2014 pour laquelle Colbert, que ce soit aux Tuileries ou au Louvre, va réaliser des volumes qui ne sont plus à la mesure des humains, mais des volumes qui sont à la mesure de demi-dieux. Louis XIV, c'est le roi Soleil, c'est le fils d'Apollon, et la colonnade du Louvre, quand on voit le gigantisme de cette colonnade, qui en même temps est probablement le plus beau manifeste de l'art classique français, eh bien, on se rend compte que les volumes sont des volumes de véritables dieux. La monarchie entre vraiment à ce moment-là dans le domaine du droit divin. Et tout ça, ça commence sous Henri IV et ça va se développer sous François Ier, ça va se développer sous Henri II, ça va se développer sous Henri IV avec le grand dessin, c'est-à-dire la réunion du Louvre et des Tuileries, qui finalement ne verra sa réalisation que sous un empereur qui malheureusement n'a rien de bien de droit divin, un empereur qui est bien prosaïque, le bon Napoléon III. Enfin, malheureusement, on voit bien que la réunion du Louvre et des Tuileries par Le Fuel, il n'y a qu'à regarder le décor, même si maintenant il a été restauré, le décor de Le Fuel est bien bourgeois, mais n'a plus rien de bien divin. En tous les cas, on n'y retrouve plus les volumes Louis XIViens. Tout ça sans sa bonne bourgeoisie du XIXe siècle et manque quelque peu d'élégance. Vous savez ce que disait un architecte à qui Le Fuel très fier montrait ses terrasses avec les statues à l'intérieur de la cour Napoléon, et l'architecte regardait Le Fuel et lui, Le Fuel était très fier. Qu'en pensez-vous? Trop de monde au balcon. Et c'est exactement ça, toutes ces statues montrent trop de monde au balcon. Donc François Ier réalise une architecture tout à fait, comme dit, signifiante, une architecture où l'on doit ressentir que on n'est pas chez n'importe qui, mais qu'on est véritablement chez le roi. Et cette architecture, surtout la toiture, regardez-la bien, on va avoir dans le Louvre cette alternance de toits en comble brisé pour les galeries, et puis de toits beaucoup plus élevés en comble carré ou de toits en comble arrondi, de demi-dômes, qui vont être une alternance, c'est-à-dire que vous avez des galeries jointes par des pavillons recouverts de dômes, soit arrondi, soit carré. Eh bien, ces toitures, où que vous soyez en France, lorsque vous les voyez, vous savez que vous avez affaire à un bâtiment officiel. En fait, c'est avec le Louvre que va se former ce qu'on appellera l'architecture publique, en réalité, car que ce soit les gares, que ce soit les préfectures, que ce soit à Paris l'abominable préfecture de police en face de Notre-Dame, eh bien, on a ces toitures à comble brisé, avec ces pavillons dans les angles, qui eux-mêmes sont recouverts de combles élevés, brisés eux aussi, mais carrés, qui désignent tout de suite la gare d'Orsay que l'on est devant un bâtiment public. Eh bien, Pierre Lescot a réalisé, je dirais, le premier bâtiment public que l'on ait à Paris, celui que l'on reconnaît du plus loin, et qui va donner l'exemple pour des siècles, surtout hélas au XIXe siècle, et le XIXe siècle qui n'a pas été avare de ce type de bâtiment, puisqu'on le retrouve, comme je vous le disais, aussi bien dans les préfectures, dans les gares, dans les musées, dans les bibliothèques, on retrouve sans arrêt ce même type de toiture qui vient du Louvre et qui vient de Pierre Lescot pour désigner un bâtiment qui n'est pas un bâtiment commun. Donc, le travail de Pierre Lescot est très important, et ce travail de Pierre Lescot, il n'est pas comme ça gratuit. Il ne faut pas oublier que François Ier a été, après Charles V, un des rois les plus mécènes. Il a fait venir en 1515 avec lui le fameux Léonard de Vinci. Il savait parfaitement qui était Léonard de Vinci, et il a fait des pieds et des mains pour que Léonard lui vende la Joconde, alors que Léonard n'avait pas du tout envie de vendre la Joconde. Et la Joconde, il ne l'a eu, enfin la fameuse Mona Lisa, il ne l'a eu qu'à la mort de Léonard. Il l'a eu très cher d'ailleurs, il l'avait payé très très cher. Léonard savait parfaitement ce qu'il avait fait, et la plupart des œuvres entrées au Louvre, des œuvres de Léonard, en fait, on les a payées. François Ier voulait avoir ce qu'il y avait de mieux au point de vue peinture, au point de vue sculpture. On a commencé à rechercher en Italie, surtout parce que l'Italie avait un siècle d'avance sur la France, et avec Dante et Pétrarque, la langue toscane était la première langue fixée en Europe, la première langue littéraire, puisque Boccace, Dante et Pétrarque, voilà les premiers grands écrivains de l'Europe, ce sont eux qui ont la première langue fixée, on continue à parler Toscane, la même langue que Dante et Pétrarque, alors que essayer même encore maintenant de lire Ronsard ou Dubélé, on voit très bien qu'il faut quand même à côté un petit peu de connaissance, ça n'est plus la langue que nous parlons. À Florence, on parle toujours la même langue, celle de Boccace, de Dante et Pétrarque, or elle est fixée depuis le XIVe siècle. En France, on a 3 ou 4 siècles, il faut attendre Malherbe, il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour que la langue soit fixée. On sait que l'Italie, c'est le domaine des arts, c'est là que ça se fait, c'est là qu'il faut aller le chercher, et on va essayer de ramasser tout ce que l'on peut en Italie. On va même, avec Charles IX, imiter ce qui se fait en Italie, les académies. Charles IX a entendu parler par sa mère, Catherine de Médicis, de ces académies. La première a été fondée en 1461 à Florence, l'Académie del Disegno. Eh bien, Charles IX va vouloir à son tour avoir une académie, académie non pas d'artistes graphiques, mais d'artistes littéraires, académie qui n'aura d'ailleurs qu'une durée éphémère, mais cette académie, elle est installée au Louvre. Là aussi, c'est très important, parce que Charles IX n'habite pas forcément au Louvre, il habite aux Tuileries et au Louvre en alternance, et bien c'est au Louvre qu'il l'installe, il lui donne des bâtiments au Louvre. Et il ne faut pas oublier non plus, ça n'est dit souvent que la République a été la nourrice des arts, eh bien, je dirais que c'est exactement le contraire. Car qui est-ce qui a logé les artistes au Louvre pour la première fois? C'est Henri IV. En fait, c'est Henri IV qui a décidé que cette grande galerie qu'il avait fait achever en 1595, le rez-de-chaussée et l'entresol seraient réservés au logement des artistes qui travailleraient à la gloire du roi. Ce n'est pas notre Dieu actuel qui fait travailler les artistes qui pourraient en dire autant, il ne les loge pas. Et la première chose qu'a faite la République en 1795, ça a été au contraire de chasser les artistes du Louvre et de leur demander de bien vouloir aller voir ailleurs ce qui s'y passait. En fait, les rois ont été les seuls à réellement protéger, loger les artistes. Et Henri IV, ça n'est pas gratuit, n'oubliez pas, c'est pour la gloire du roi, et il les loge, il les nourrit pour que ceux-ci glorifie cette monarchie dont Henri IV aimerait bien qu'elle se transforme d'une couronne royale en une couronne impériale. Malheureusement, le temps ne sera pas pour lui, et puis même, de toute façon, je crois qu'à ce point de vue-là, les Valois et les Bourbons se sont fait de douces illusions. Jamais les princes électeurs allemands n'auraient élu, à moins l'Occident, un Français à leur tête. Ils n'y tenaient pas du tout. Ils se disaient que, finalement, cet empire situé au centre de l'Europe, dans la Mittel-Europa qui se recrée actuellement, c'était plus sûr que de le mettre à l'ouest, donc il valait mieux rester entre soi. Donc, c'est là que Henri IV fait installer les artistes, et ces artistes vont commencer à s'installer, et même, je dirais plus, à s'incruster dans le Louvre par génération entière. Et là, il y aura d'autres problèmes qui se poseront 2 siècles plus tard. Et justement, si on les chasse, c'est qu'il y avait vraiment des gros problèmes posés par ces artistes. En tous les cas, après Henri IV, vous savez qu'il y a eu de gros problèmes. Louis XIII a vécu en partie au Louvre, mais surtout aux Tuileries. Et Louis XIV n'a jamais beaucoup aimé le Louvre. Encore moins le palais royal, c'est vrai, mais de toute façon, Louis XIV n'aimait pas le Louvre qui lui paraissait inconfortable. Et puis, la mort d'Anne d'Autriche en 1766 dans les appartements de la reine, c'est-à-dire au bas, au rez-de-chaussée de la galerie d'Apollon, avait beaucoup frappé le roi, car la mort d'Anne d'Autriche était très mal passée, elle était morte de fièvre et de façon épouvantable. Et Louis XIV, qui aimait beaucoup sa mère, avait été très frappé par cette affaire et au fond, n'a jamais beaucoup aimé le Louvre, où il n'aimait pas vivre, il vivait un peu aux Tuileries. Et Colbert a d'ailleurs fait beaucoup plus de travaux aux Tuileries pour aménager les appartements royaux qu'il n'en a fait au Louvre. Au moment d'ailleurs où Colbert en 1678 terminait avec Levaux les grands travaux des Tuileries, eh bien c'est la même année que Louis XIV décide que finalement Paris ne lui convient pas et qu'il va aller s'installer là-bas dans cette banlieue où il y a un petit rendez-vous de chasse. Mais en tous les cas, il va aller s'installer à Versailles et installer définitivement la monarchie à Versailles. Là aussi, d'ailleurs, c'est assez curieux quand on y réfléchit, parce que Louis XIV, c'est comme ses successeurs, se sont fait de 12 illusions. Il pensait installer réellement toute la capitale, c'est-à-dire l'administration à Versailles. Or, jamais l'administration, comme vous le savez, bien accrochée sur Paris, jamais l'administration, malgré ses projets de délocalisation du XVIIe siècle, n'a voulu suivre et, au fond, ni la Cour des comptes, ni le Parlement n'ont voulu aller s'installer à Versailles, ils trouvaient qu'à Paris on était quand même mieux. Et puis malgré tout, ils étaient au palais, pourtant on dit toujours le palais, le roi n'y habitait plus depuis le XIIIe siècle, et bien ils étaient au palais où ils avaient leur autonomie, on n'était pas plus mal, et malgré toutes les tentatives de Louis XIV et de Louis XV, jamais on a pu faire venir l'administration à Versailles. Donc le Louvre, dès l'époque où Louis XIV décide de s'en aller à Versailles, eh bien le Louvre, déjà dès cette époque-là, n'est plus voué à l'habitation du roi, mais Colbert y loge en 1672, donc vous voyez, 6 ans avant le départ du roi, y loge l'Académie. Il lui donne des appartements, le rez-de-chaussée des appartements de la reine qui maintenant sont libres, dont Louis XIV ne veut plus entendre parler. Il y installe l'Académie de façon à ce qu'elle soit logée, à ce qu'elle ait ses bureaux. Et vous me pardonnerez, je reprends ce que j'ai écrit il y a quelques années, car malheureusement, avec l'âge, on n'a plus tout à fait la mémoire, donc je reprends un peu mes notes pour être tout à fait sûr. Il y a un petit livre que j'avais écrit pour Talendier il y a quelques années, donc je reprends un petit peu mes notes, vous me pardonnerez de reprendre là-dessus. Mais pour être sûr des dates, par la suite, excellent Colbert, continue à installer, à faire des projets pour installer les académies. Louvois poursuit exactement la même politique, c'est-à-dire qu'en 1685, il installe l'Académie des inscriptions et belles-lettres au rez-de-chaussée de l'aile Le Mercier, c'est-à-dire dans la partie nord-ouest du Louvre, de la Cour Carrée. Puis, en 1692, c'est l'Académie de peinture et de sculpture qui aménage dans le grand salon. On reviendra tout à l'heure sur ce grand salon qui est très important. Et puis, près de la galerie d'Apollon et des cabinets du roi, c'est-à-dire dans l'actuel pavillon du roi, on installe, et de façon beaucoup plus confortable, de façon moins entassée, les collections royales qui ne quittent pas Paris ou Versailles, mais qui restent à Paris, les collections royales, collections surtout de tableaux, mais aussi de pas mal de sculptures. Ça, la sculpture se développera plus tard, le goût des antiques se développera plus tard, mais dans tous les cas, les sculptures et les tableaux sont installés à la fois dans la galerie d'Apollon et puis au-dessus de la salle des Cariatides, où ces tableaux d'ailleurs sont en quelque sorte mis à la disposition de l'Académie de peinture, puisque ces tableaux sont ouverts aux élèves de l'Académie de peinture pour venir prendre des exemples, et voyez comment on rejoint la même chose, pour venir copier ce qu'avaient fait les anciens, pour eux-mêmes à leur tour fournir des œuvres nouvelles à la gloire du roi, certes, mais qui s'inspirent de ce qu'ont fait les grands ancêtres, dont on connaît parfaitement la valeur, on sait parfaitement que les grands maîtres italiens, puisque c'est surtout ceux-là, à cette époque-là, on connaît mal les écoles allemandes ou les écoles hollandaises, ni même les espagnols, qui eux seront découverts beaucoup plus tard, eh bien, on sait que c'est à travers les grands ancêtres que l'on va pouvoir trouver des exemples qui exalteront la peinture française. Donc, tout cela s'installe, et l'Académie de peinture décide en 1699, chaque année justement, pour remercier un peu le roi de prêter ses tableaux, décide d'offrir à la fois à l'admiration du roi, mais aussi des Parisiens, les meilleures œuvres faites dans l'année par les élèves de l'Académie royale. Alors on les installe d'abord à l'extrémité occidentale de la Grande Galerie, et puis à partir de 1725, on installe ces peintures dans le salon carré, et c'est ainsi qu'on parlera dorénavant, d'abord une fois par an, puis à partir de 1737, une fois tous les 2 ans, la biennale, eh bien on décidera d'aller au salon carré d'abord, puis au salon tout court ensuite, pour aller voir les œuvres produites. Et vous voyez comment se fait cette jonction de collections royales, qui sont des témoignages du passé, avec un palais qui est vidé, mais un palais qui a une signification extraordinaire, une signification à la fois royale et en même temps d'un bâtiment étonnant, fait pour exalter la plus grande civilisation du monde, c'est-à-dire la civilisation française, et qu'en même temps, on présente les œuvres créées, la création d'œuvres, donc des choses qui se font au fur et à mesure, imitées à travers les anciens. Donc, ces trois éléments se rejoignent là-dedans, et tout cela forme peu à peu cette notion de collection exposée au public, puisqu'on présente les œuvres d'art contemporaines. Peu à peu, se fait dans l'idée que l'on pourrait aussi montrer non seulement aux élèves des académies, mais aussi, d'abord à quelques privilégiés, puis aux simples amateurs, aux antiquaires, comme on dit à cette époque-là, et puis au public, au XVIIIe siècle, on commence à envisager de présenter ces collections au public en même temps que l'on présente les œuvres modernes. Tout cela est complètement lié, et il n'y a pas de bâtiment plus signifiant pour présenter ces œuvres que le Palais du Louvre. Vous voyez donc comment se forme peu à peu cette notion de musée du Louvre. Il faut dire qu'il n'y a pas que cela, puisque l'Académie des sciences s'installe à son tour en 1699 dans les locaux du Louvre. Elle y présente ses bocaux, ses pipettes et surtout le grand éléphant qui a été dépecé par Claude Perrault avant que celui-ci ne s'attaque à la colonnade, puisqu'il était un scientifique avant d'être un architecte. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est plus amusant pour l'anecdote que réellement pour le Louvre, c'est l'installation des fameux plans-reliefs de Vauban qui sont installés dans la partie orientale de la Grande Galerie en 1697. Et vous savez que ces plans-reliefs, à l'origine, sont destinés à servir d'exemple pour la stratégie, pour montrer comment on doit faire la guerre. Là encore, on installe les plans-reliefs pour l'instruction de ceux qui plus tard voudront s'adonner au goût de la stratégie, et donc, là encore, toujours cette idée d'instruction. Et puis, il y a l'éphémère Académie de politique qui s'installe, elle, au premier étage du pavillon de l'horloge. Au fond, on peut dire que, à la fin du XVIIe siècle, le Louvre est entièrement voué aux artistes, aux académies, aux collections royales. Tout cela est complètement lié. On a affaire à réellement un établissement scientifique, je n'oserais pas dire une maison de la culture parce que le terme a été bien dévoyé par Malraux, enfin c'est malgré tout la première grande maison de la culture et en même temps le premier établissement scientifique qui soit ouvert à Paris, et au fond là maintenant on n'a plus que où va ouvrir le grand musée. Les artistes sont d'ailleurs installés aussi tout autour, alors dans des conditions qui laissent un petit peu rêveur, car c'est à qui pourra obtenir un appartement d'une pièce, deux pièces, trois pièces. On entresole complètement la Grande Galerie, du moins le rez-de-chaussée de la Grande Galerie. On installe un petit peu du monde partout au-dessus des académies. Chacun se forme son petit domaine. On ne demande aucune autorisation d'ailleurs pour faire des planchers en bois, pour installer des escaliers un peu partout, pour percer des cheminées à travers les murs, pour installer des poêles qui plus ou moins sentent mauvais, pour faire sa cuisine. C'est connu qu'il y a des artistes qui, sur les toits du Louvre, cultivent leur laitue. Tout cela forme un amalgame assez étonnant, au point d'ailleurs qu'un limonadier qui avait installé son bâtiment dans le pavillon de Flore, eh bien, met le feu au pavillon de Flore en 1725. Le pavillon de Flore brûle presque de fond en comble en 1725. Et la collection 1721, c'est toute l'œuvre de Boulle, tout l'atelier de Boulle qui brûle, emportant évidemment tout ce que Boulle avait fait jusqu'en 1721 et qu'il n'avait pas vendu jusque-là. Tout cela à cause de l'imprudence d'un de ses voisins qui n'avait pas surveillé sa cuisinière à bois. Et donc tout cela, vous voyez, forme un ensemble assez hétéroclite, plutôt mal surveillé que bien surveillé, tout cela relativement laissé à l'abandon, puisqu'en principe, ce sont les académies qui doivent surveiller le bon état du Louvre. Vous imaginez bien, les académiciens des inscriptions et belles lettres. Alors tant que c'est l'abbé Bignon qui est à la fois président des académies, c'est-à-dire qui préside l'Académie des sciences, l'Académie des inscriptions et belles lettres, et qui préside l'Académie française, et qui jusqu'en 1725 gardera la haute main sur les académies, sur l'imprimerie royale, sur la bibliothèque du roi. Cet abbé Bignon, c'est un personnage tout à fait extraordinaire, qui n'a jamais été convenablement étudié, mais c'est probablement le premier qui a réuni entre ses mains tous les pouvoirs culturels de son temps, et c'est un personnage tout à fait étonnant. Et bien, tant que l'abbé Bignon tient les choses en main, ça va, mais à partir du moment où l'abbé Bignon est mort, et bien tout cela s'en va plus ou moins à volo, et le Louvre tombe entre les mains de ceux qui sont là-dedans et qui font absolument ce qu'ils veulent. Il n'y a qu'à lire d'ailleurs la vie de Chardin pour se rendre rendre compte à quel point la vie devait être amusante et belle, ou la vie des Coypels, dont trois générations sont nées au Louvre. Et puis n'oubliez pas que Soufflot est né au Louvre, mais que son gendre Vernet était né au Louvre, et que Joseph Vernet, Karl Vernet, puis Horace Vernet, là on a trois générations de Vernet, ça veut dire quatre générations depuis Soufflot, qui sont nées au Louvre, et Horace Vernet raconte dans ses souvenirs ce qu'était la vie dans cette grande galerie du Louvre, où c'était tout et n'importe quoi, et où chacun faisait absolument ce qu'il voulait. Alors, l'événement qui rythme la vie au Louvre, c'est le salon, il n'y a aucun doute, parce que le salon est très vite devenu une grande occupation des Parisiens. Dans la semaine du 25 août, tous les Parisiens, et alors ça c'est très drôle, parce qu'on dit que la notion de Grand Palais maintenant est envahie par tout le monde vient voir les expositions, les riches et les pauvres, les chômeurs et les travailleurs, les cadences infernales et les astreints à l'impôt sur les grandes fortunes, tout le monde est mélangé, mais le salon c'était pareil, le salon c'était tout le monde qui allait au salon, d'abord c'était gratuit, donc on s'y précipitait, et puis c'était l'événement que tout le monde attendait, parce que quand nous voyons des gens se gausser de certaines expositions d'art moderne et contemporain, eh bien, il faut bien se rendre compte, quand on lit ce qui est écrit à l'époque, que c'est exactement pareil. On va au Gallimacia du salon, ou alors vous avez le petit guide de l'aveugle au salon, le petit guide des œuvres à tâtons, on se moque, mais de façon très virulente, de ce qui est présenté. Entre autres, les Coypels sont régulièrement la risée de... Maintenant, on se demande pourquoi, mais la risée de ceux qui vont au salon et qui trouvent qu'on ne fait plus dans le grand genre le brun. Le brun, c'est peut-être meilleur qu'on le dit en général, mais enfin, malgré tout, cette évolution du XVIIIe siècle laisse à servir. Chardin a été moqué et vilipendé parce que Chardin, justement, abandonnait le grand genre. Et puis, cette idée de travailler au pastel, on laisse ça à des femmes. Enfin, c'est tout ça. Il y a ces italiennes qui travaillent au pastel, mais enfin, un peintre sérieux, solide, ne travaille pas au pastel. Donc vous voyez, tout ce qu'il y a, tout ce, je dirais, tout ce goût de la critique qui se forme, les salons de Diderot 1750 jusqu'à 1780, Diderot fera la chronique du salon, c'est d'ailleurs par ça qu'il est connu, beaucoup plus que par le reste de ses écrits à l'époque. Diderot, c'est pas très très connu, on le connaît simplement chaque année, on attend sa critique du salon, et dans les autres salons, justement, on en parle beaucoup, on attend ce qu'il écrit, mais Diderot n'est pas tendre pour les artistes, même ceux que depuis nous considérons comme de grands artistes. Donc, le goût se forme au salon, mais en même temps, il ne faut pas oublier que collection royale s'ouvre de plus en plus au public, et ouverte d'abord uniquement aux savants, elles sont ouvertes régulièrement tous les vendredis à ceux qui en font la demande à partir de 1725. On peut venir voir les collections royales du moment qu'on justifie de sa demande, mais au fond, ça n'est pas plus difficile d'aller voir les collections royales qu'aujourd'hui d'obtenir une carte à la Bibliothèque nationale. C'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'il faut justifier d'une recherche ou simplement d'avoir besoin de faire une copie parce qu'on est artiste, d'avoir une recommandation, et à ce moment-là, vous pouvez aller voir les collections royales. Je dirais que c'est à partir du début du XVIIIe siècle que les collections commencent à devenir collections publiques dans Paris. Alors, dans le même temps, on essaye malgré tout de reprendre en main le Louvre. Là-dedans, il faut bien dire que la marquise de Pompadour s'y intéresse beaucoup. Son frère, l'intendant Marigny, a des grandes idées sur la question et voudrait que ce Louvre, justement, devienne quelque chose d'exceptionnel. Il voudrait pouvoir y exposer les collections royales. Il voudrait aussi y installer d'autres collections. Et il y a un grand projet en 1763 d'installer, en même temps que les collections royales, d'installer aussi la bibliothèque royale, dont on sait que rue Vivienne, elle est plus ou moins bien installée. Les locaux sont provisoires rue Vivienne. Quand on voit qu'elle est toujours sur place, ça fait rire, mais malgré tout, les locaux sont provisoires à cette époque-là, et Soufflot fait un grand projet d'aile transversale, partant de la Grande Galerie au centre de la Grande Galerie, là où vous avez à peu près aujourd'hui les guichets du Carrousel. Soufflot établit un grand projet de bâtiment pour la bibliothèque royale. Malheureusement, la guerre de 7 ans et les différentes crises économiques font qu'il n'y a pas d'argent et que tout cela, malheureusement, est laissé à volo. Seule l'Académie de peinture continue à s'acharner sur le Louvre et en 1761 fait achever les travaux de décoration de la galerie d'Apollon qui, encore actuellement dans le palais du Louvre, reste la la seule partie achevée telle que ça a été voulu par l'Ancien Régime, la Galerie d'Apollon avec ses extraordinaires peintures, même si une partie a été copiée au XIXe siècle, eh bien, la Galerie d'Apollon est la seule partie sur laquelle l'Académie de peinture, en 1761, réussit à mettre la main et à l'achever telle que le voulaient les rois, tels que le voulaient les intendants. Le travail de Marigny va être repris à la fin du XVIIIe siècle par l'intendant à la direction des bâtiments du roi, le comte d'Angevilliers, qui reprend le flambeau et qui est un homme qui a beaucoup voyagé, un homme extrêmement cultivé, un homme qui a surtout visité les collections qui sont déjà présentées ailleurs en Europe. Premièrement, dans cette espèce de curieux bâtiment florentin qui était destiné à l'administration, aux offices des Médicis, et qui devient les Uffizi, et dans lesquels l'administration n'a jamais pu s'installer, parce qu'immédiatement, il a bien fallu trouver de la place pour les collections des Médicis, qui étaient trop importantes, et l'administration n'a jamais réellement pu s'installer dans les offices. Les Médicis ont dévolu cette espèce de bâtiment qui court au-dessus de l'Arno, directement aux collections des Médicis, collections d'ailleurs extrêmement vastes, le palais Pitti n'étant plus suffisant pour les présenter. Et puis, en 1734, il ne faut pas oublier que le pape Clément XII ouvre au public, je dirais, ce qu'il y a de plus érudit à Rome, c'est pas le grand public, mais enfin, ouvre au public étranger et romain les collections, le musée du Capitole, donc ce qui va avoir pour successeur le musée du Vatican, est ouvert dès 1734 au public, à ceux qui veulent venir voir les collections pontificales. Et il y a plusieurs en France pour faire exactement la même chose. Ce musée du Capitole, ça va servir de modèle pour tout le reste. Le musée des officiers, le musée du Capitole, c'est le modèle que l'on veut absolument suivre. Le comte d'Angevilliers demande d'ailleurs que l'on débarrasse un certain nombre de choses, commence à reprendre en main les logements, installe les artistes, regroupe les artistes vraiment au rez-de-chaussée et à l'entresol de la grande galerie, essaye de les enlever au maximum de la cour carrée. En 1776, il fait déménager les plans-reliefs qu'il envoie aux Invalides, vous savez ce qu'il en est advenu de ces plans-reliefs par la suite, hélas, il charge Soufflot de faire un projet, et à côté de Soufflot, il nomme le peintre Hubert Robert et le sculpteur Pajou pour aménager les salles, la notion de muséographie. Soufflot sera l'architecte, et Hubert Robert et Pajou seront les présentateurs des œuvres, c'est-à-dire qu'ils font une présentation tout à fait spéciale. Et vous savez qu'Hubert Robert va faire plusieurs projets, entre autres ce projet d'éclairage zénital, vous connaissez les deux tableaux qui sont au Louvre, les deux tableaux d'Hubert Robert, qui ne sont au fond, l'un avec ses ruines de la Grande Galerie, ça c'est dans le goût de l'époque, et puis c'est dans le goût assez fantaisiste d'Hubert Robert, qui est très influencé par les ruines de Panini, les ruines italiennes, mais l'autre étant cependant, c'est-à-dire qu'il voulait montrer que si on continuait à laisser la Grande Galerie comme ça, ça allait devenir des ruines, et puis l'autre cependant, il montrait le projet qu'il présentait avec cet éclairage, cette verrière zénitale, d'ailleurs extrêmement difficile à réaliser, parce que on ne savait pas à l'époque faire parfaitement des verrières, on ne savait pas utiliser le fer pour bien des fermes de fer pour soutenir ces verrières, mais malgré tout, le projet est extraordinaire, car on sait qu'il faut éclairer les œuvres d'en haut, de façon à ce que le soleil ne puisse pas abîmer les œuvres qui sont présentées. Donc, un travail de préparation muséographique, mais en même temps, un très important travail scientifique, car d'Angevilliers charge à ce moment-là plusieurs personnes, dont le peintre Lebrun, non pas le grand Lebrun du XVIIe siècle, mais le mari de Madame Vigée-Lebrun, l'époux, je dirais Monsieur Vigée-Lebrun, de faire l'inventaire des tableaux avec toute une équipe, l'inventaire aussi des sculptures, ça c'est Pajou qui dirige l'inventaire de ce qui existe, et en même temps, il demande à ces deux artistes d'aller à travers l'Europe chercher de quoi compléter les collections, et c'est entre autres à ce moment-là que ce Lebrun, qui est aussi un personnage curieux, mais dont on a plusieurs études, c'est un époux peu regardant sur la vie de son épouse, mais regardé parce qu'elle a plus de talent que lui, et donc elle voyage beaucoup, la chère dame, et qu'elle est jolie femme, alors que lui est très laid, voyagé qu'elle aussi. Et donc ce Lebrun, homme d'ailleurs peu commode, c'est difficile de caractère, Lebrun voyage surtout en Italie pour compléter les collections, et entre autres les premiers primitifs italiens. C'est le premier qui découvre la beauté des primitifs italiens, alors que jusque-là on considérait ça comme de la peinture gothique, mais il y a pire que tout à l'époque. Le mot gothique n'a pris une signification laudative, du moins, je dirais, d'histoire de l'art, au XIXe siècle. Quand on dit gothique au XVIIIe siècle, ça veut dire que vous êtes mal habillé, que vous êtes très laid et que vous êtes d'un autre âge. Donc, il s'intéresse à ces primitifs italiens et il commence à rapporter les primitifs italiens. Il s'intéresse aussi aux écoles allemandes, qui à l'époque aussi sont totalement inconnues en France. Donc, on complète les collections royales, on ne se contente pas simplement d'aménager ce qui existe, on va bien au-delà, on présente et on fait réellement un travail de conservateur. C'est la première fois que l'on fait un travail de conservateur de musée, c'est-à-dire qu'on étudie, on inventarie, on complète les collections et on cherche à voir comment on pourra les présenter le mieux possible. Voilà réellement quand s'est formé le musée du Louvre. C'est à la fin du XVIIIe siècle, c'est là que le travail commence. Au fond, la Révolution n'aura qu'à récupérer ce qui a été fait et elle va évidemment le modifier profondément. Et je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, mais lorsque elle va, en 1791, récupérer, surtout dans les couvents, beaucoup moins dans les collections privées, les œuvres d'art accumulées comme biens nationaux, on va tout rapporter au Louvre. Pas les livres, vous le savez très bien, parce que les livres ont été remis au département, mais les œuvres d'art sont ramenées à Paris. Il faut vraiment que Lebrun s'accroche beaucoup pour être maintenu en fonction. Hubert Robert fait même 6 mois de prison et de justesse, il n'est pas guillotiné. David règle ses comptes avec les uns et les autres. Lebrun se maintient parce que Lebrun s'est fait une spécialité de la restauration des œuvres. Donc David peut difficilement échapper à Lebrun, qui est le premier des grands restaurateurs de tableaux et qui dirige véritablement un atelier de restauration. Quand on voit les restaurations faites par Lebrun maintenant, avec du recul, à l'époque, il a sauvé des choses. Enfin, c'est de la restauration faite à l'Ajax, c'est durement restauré, mais Lebrun réussit malgré tout à se maintenir, à échapper aux geôles révolutionnaires, et surtout, alors, ce que fait David, c'est le grand organisateur, l'homme de la publicité. Premièrement, il réunit un conservatoire, c'est là que le mot conservateur va apparaître, c'est-à-dire un groupe d'artistes et de savants de l'époque, 7 personnes, qui vont se réunir pour décider de la politique qui va être faite dans le Louvre, et puis surtout ouvrir symboliquement le 10 août 1793 au public, 3 jours par semaine, les collections, les anciennes collections royales devenues collections nationales. En fait, d'ailleurs, tout ça ne dure que 6 mois, parce que très vite, le public prend la fâcheuse manie de crayonner les œuvres, d'aller regarder si c'est bien du marbre, de mettre l'ongle dessus. Donc, tout cela, on se rend compte qu'il faut, derrière une infrastructure, c'est-à-dire les gardiens, et comme 1793, c'est pas une très bonne année pour les finances, eh bien, on préfère fermer. Et en réalité, même si vous allez voir, l'année prochaine, on ouvre une grande exposition pour le bicentenaire du muséum, certes, la date est symbolique, le 10 août 1793, mais il faudra réellement attendre 1797, c'est-à-dire bien après Thermidor, pour que le Louvre soit à nouveau réellement ouvert au public. En fait, la fin de l'année 1793 jusqu'à 1797, à nouveau, on referme les collections plus que jamais pour que, justement, on puisse reprendre le travail à l'intérieur du Louvre. En fait, c'est donc là qu'est réellement formé le musée du Louvre et tout ça va bénéficier après la Révolution, des conquêtes, d'abord de Bonaparte, puis de Napoléon, parce que Bonaparte, au fond, qui a énormément lu les historiens de la France, sait qu'il est l'héritier non seulement des rois de France, et il a vraiment chaussé tous les insignes de la royauté, c'est Louis XIV renaissant, mais en même temps il se souvient des empereurs romains et de Charlemagne. Et il sait qu'il est important de réunir autour de soi des collections, et à chaque traité, à chaque conquête, que ce soit la Belgique, que ce soit l'Italie, que ce soit l'Allemagne, tous les traités prévoient l'arrivée en France d'un certain nombre d'œuvres d'art prises de façon plus ou moins glorieuse ailleurs sur l'ennemi, et puis il envoie à travers l'Europe un certain nombre de personnes pour acheter des œuvres d'art. Entre autres, il s'acoquine avec un curieux personnage qui est Ennio Visconti, qui a été un des membres de la République romaine, d'éphémère République romaine en 1795, père de l'architecte Visconti, pour lequel vous avez une exposition actuellement à Paris. Et cet Ennio Pierino Visconti suit Bonaparte en 1798 à Paris et va rester jusqu'en 1821 au Louvre, sans avoir d'affectation particulière, derrière, mais en réalité, la thèse d'une professeure italienne semble montrer que plus que vivant de nom, c'est Ennio Quirino Visconti qui a fait véritablement toute la politique du musée du Louvre, parce que ce Visconti connaissait toutes les collections d'Europe, alors que vivant de nom, était un bon administrateur, mais connaissait mal l'histoire de l'art. Visconti connaissait toutes les collections d'antiques italiennes, parce qu'il les avait depuis l'origine, son père était déjà antiquaire. Il avait énormément voyagé à travers les pays d'Europe centrale, et il savait donc tout ce qui se trouvait, et c'est lui qui est le grand rabatteur sur le Louvre des œuvres d'art qui vont entrer. Alors, il y a des arrivées, évidemment, vous connaissez tous le grand défilé de 1798, où les œuvres arrivent depuis le Champ de Mars jusqu'au Louvre, et il faut dire que ce n'est pas n'importe quelles œuvres. C'est quand même Napoléon du Belvédère, c'est quand même le Laocoon, c'est quand même le Tibre et le Nil, c'est pas n'importe quoi, c'est des œuvres fabuleuses, c'est des choses, ce sont les chevaux de Venise. Alors en plus, les chevaux de Venise, c'est pire, c'est plus extraordinaire que tout, parce que ces chevaux de Venise, ils proviennent de Constantinople, et on sait qu'avant Constantinople, ils étaient probablement dans la Grèce antique, et qu'ils proviennent peut-être d'Égypte, donc ils ont ces chevaux de Venise, une signification extraordinaire. On les place au sommet de l'Arc de Triomphe du Carousel pour bien montrer que Bonaparte, puis Napoléon, c'est l'héritier des grands empereurs des temps anciens et qu'il n'y a pas de, au fond, il n'y a pas de solution de continuité entre eux. Et puis le Laocoon, dès le XVIe siècle, dès qu'il a été découvert au XVIe siècle, on sait que c'est une des plus belles sculptures de l'époque. Il n'y a qu'à lire Vitruve ou même les émules de Vitruve, on voit que c'est l'œuvre antique la plus extraordinaire qui soit. On a d'abord cru que c'était une œuvre grecque, puis ensuite on s'est rendu compte que c'était une œuvre romaine, mais en réalité, ce Laocoon est installé par Vivant de Nom de façon tout à fait extraordinaire. Au fond de la galerie de Diane, là où vous avez aujourd'hui la Vénus de Milo, on l'installe de façon tout à fait spectaculaire. Je vous dis, c'est Jean-Paul Goud, en réalité, Vivant de Nom, on l'installe de façon spectaculaire avec des éclairages la nuit en flambeau. C'est Laocoon qui est exposé au public et on ouvre le Louvre le soir, que le public puisse venir voir à la lueur des flambeaux ce Laocoon qui est à la fois la plus belle œuvre d'art de l'époque, mais en même temps qui est le symbole de la gloire napoléonienne. Alors donc, le Louvre se développe considérablement, disons jusque vers 1805-1806, et puis là encore, exactement comme sous Louis XV, le nerf de la guerre fait défaut et tout cela a tendance à se ralentir considérablement. À se ralentir, j'ai dit, jusqu'en 1815, à la première restauration, Louis XVIII réussit à sauver tout ce qui a été rapporté en France, et dire que si Napoléon n'était pas revenu une deuxième fois, eh bien le Louvre serait actuellement probablement le musée et de très très loin le plus riche du monde, parce qu'on aurait gardé toutes ces œuvres qui font, d'abord c'est peut-être pas plus mal que ce soit reparti à l'étranger, que ce soit retourner dans les lieux où, au fond, comme Napoléon du Belvédère, trouvé dans les jardins du Belvédère, au fond, c'est pas plus mal qu'il soit là-bas et qu'il ait retrouvé son lieu d'origine. Enfin, malgré tout, au deuxième traité de 1815, il faut rendre les œuvres et il faut en rendre une grande partie, et le Louvre est quand même considérablement vidé. Considérablement vidé, pas pour très longtemps, car, en fait, le goût se développe, ce début du 19e siècle, parce qu'on a donc la collection maintenant, et en France, on a écumé tout ce qui pouvait s'acheter comme antique, on a écumé tout ce qui pouvait s'acheter comme tableau connu, et comme œuvre, l'école italienne, on commence, les écoles flamandes et hollandaises, on commence à les avoir, les antiques, bon, les antiques romains, on a écumé, le marché commence à se vider sérieusement, on s'intéresse aux Grecs, oui, on commence à reconnaître, grâce aux travaux de Winckelmann et du comte de Caylus, on commence à reconnaître que c'est pas que l'art romain qui est important, il y a l'art grec aussi, on ne connaissait pas jusque-là, et puis on commence à s'intéresser au Moyen-Âge, on commence à s'intéresser à l'Égypte, et il y a des collections qui entrent peu à peu dans les collections qui sont données. D'abord, ce sont les vases grecs de Tochon en 1820. Tochon était un collectionneur qui a été le premier à collectionner ces vases grecs, vous savez, ces vases de céramique à fond noir avec les personnages orange dessus. Il y a eu l'année dernière la très belle exposition Phronios, certains provenaient de la collection Tochon. C'était totalement inconnu en France, on n'en avait pas d'exemple. Il y en avait dans les collections italiennes, mais pas en France, et Tochon a écumé l'Europe. Là encore, il faut bien se rendre compte d'une chose qui a un peu disparu, c'est un peu dommage d'ailleurs, c'est que dans la collection de Tochon, il y avait à travers une pièce, il y avait aussi beaucoup de faux. Lui-même s'était fait avoir parce que on savait en Italie très bien faire les faux, et lui-même s'est fait avoir. Depuis, tout ça a été écumé, on a fait la différence, mais on acquiert toute la collection de champs. Et puis en 1821, c'est la Vénus de Milo qui arrive au Louvre. Là, c'est extraordinaire, la Vénus de Milo, parce que c'est pour le grand public la découverte que l'art antique, ça n'est pas que l'art romain, c'est l'art grec. Là, il y a quelque chose d'autre que l'on n'avait pas subordonné. On pensait que les Grecs n'avaient été que l'enfance de l'art romain, et on découvre qu'en réalité, les Romains n'ont été que les imitateurs, et ensuite, avec l'art hellénistique, malheureusement, n'ont fait que dégénérer l'art grec, et que le grand art classique, c'est l'art du 5e siècle avant Jésus-Christ, où on découvre Phidias, que l'on ne connaissait pas du tout. Le grand public découvre tout à fait autre chose. Et puis, par la suite, c'est aussi les collections accumulées par Le Noir au Musée des Monuments Français. Le Noir avait sauvé une grande partie des, surtout de ce qu'il avait récupéré dans des églises parisiennes et puis dans des églises de France. Donc c'est de l'art du Moyen-Âge, de l'art de la Renaissance qui était très mal connu. Le Noir, il n'a pas que sauvé, malheureusement il a aussi beaucoup restauré et il avait beaucoup reconstitué aussi. Et ça, Le Noir avait été assez terrifiant, un petit peu comme Le Brun, sauf que lui, il reconstituait les choses telles qu'il imaginait qu'elles auraient dû être. Alors ça donnait aussi des choses assez étonnantes que depuis il a fallu un peu revoir. Alors, Le Noir, quand même, avec sa femme, deux personnages tout à fait étonnants, parce que aussi, ils ont écumé à une époque où personne ne s'y intéressait, ils ont écumé l'art gothique, l'art de la Renaissance, que l'on considérait comme de l'art dégénéré et sans intérêt. Donc, les collections de Le Noir entrent au Louvre et font la base du département actuel des sculptures, qui, rappelez-vous, c'est pendant longtemps appelé département des sculptures du Moyen-Âge et de la Renaissance, en souvenir de Le Noir. Et il n'y a pas très longtemps, il y a 20 ans simplement, qu'on ne dit plus que département des sculptures du musée du Louvre. Et puis, plus tard, ce sont aussi les acquisitions des bijoux, de l'orfèvrerie, des deux collections Durand et Réval qui entrent au Louvre, bijoux et argenterie du Moyen-Âge et de la Renaissance là encore, et là aussi pour le grand public, qui dorénavant peut entrer au Louvre très régulièrement, c'est une découverte parce que on pensait que l'art de l'orfèvrerie n'avait commencé qu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on pensait qu'avant il n'y avait rien eu. On découvre une orfèvrerie du XVe siècle, tout à fait étonnante, non seulement française, mais anglaise et allemande, à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Et là encore, il faut rendre hommage à des gens qui sont maintenant totalement oubliés, mais la collection Durand et Réval, ce sont quand même des hommes qui ont eu, on dirait aujourd'hui, du flair, longtemps avant tout le monde, d'écumer l'Europe, et d'écumer en Europe tout ce qu'ils pouvaient trouver comme orfèvrerie et comme bijoux, et beaucoup personne ne s'y intéressait. Et c'est pour ces collections que Charles X, avec les conseils, il faut bien dire, très éclairés d'Ingres, fait aménager les salles du premier étage autour de la cour carrée pour y installer ses nouvelles collections et former ce qu'on va appeler le musée Charles X. Alors avec ces salles peintes selon ce qu'on y présente, soit en rouge pompéien, soit en bleu d'azur rappelant la Grèce, soit dans des verres pour faire ressortir les œuvres hellénistiques romaines, enfin tout cela est parfaitement étudié, avec des plafonds qui, il est vrai, en dehors de l'Homère déifié, le reste, quand on le regarde, eh bien, oui, certes, c'est intéressant parce que, je dirais, c'est instructif et c'est là pour accompagner les œuvres. Et là, malheureusement, on a beaucoup déménagé des œuvres entre-temps, donc ça n'a plus tout à fait la même signification. Mais c'était des peintures, ces plafonds, à condition de lever les yeux, c'était des plafonds qui étaient destinés à ajouter un élément d'instruction, un élément d'éducation, en plus de ce que l'on présentait dans les salles. Tout ça n'est pas gratuit, tout ça est un programme qui est fait, et en réalité, le musée Charles X, c'est un musée destiné à éduquer nous. On veut montrer qu'il n'y a pas que l'art romain, l'art grec, mais qu'il y a aussi un génie propre, un génie français, à travers les œuvres du Moyen-Âge, à travers les œuvres de la Renaissance. Et là, il faut reconnaître à la monarchie Bourbon ce souci, beaucoup plus que Napoléon, de montrer, de présenter le génie français, la peinture française aussi, que l'on commence à découvrir simplement à cette époque-là, et qui est présente en plus chaque année avec des créations au salon. Et malheureusement, c'est assez curieux de constater que c'est au moment où le génie français est reconnu dans les musées, c'est-à-dire le pas si reconnu que malheureusement la peinture du salon, elle, commence à dégénérer, à se figer, à se scléroser, et que le salon présente de moins en moins d'œuvres intéressantes jusqu'à aboutir sous le Second Empire à cette peinture pompier qui est sclérosée. Il faut bien dire que là-dessus, l'Académie et l'académisme ont eu une très mauvaise influence. Et puis je terminerai avec l'époque de Louis-Philippe, avec les deux grandes collections qui vont complètement modifier, là encore, le Louvre et le compléter. C'est d'abord la collection Salt, qui est entrée en 1826, collection d'objets égyptiens. Donc bien avant Champollion et Vivant de Nom, on s'intéresse à l'Égypte, je veux dire, on avait collectionné, alors qu'eux n'ont pas collectionné réellement, n'ont pas fait entrer grand chose au Louvre, mais Salt, qui était un ancien consul d'Angleterre au Caire, avait lui accumulé tout ce qu'il avait pu et a donné au Louvre cette énorme collection qui a formé la base du département des antiquités égyptiennes, entre autres le fameux sphinx de granit rose, vous savez, le grand sphinx rose, qui est donné par Salt en 1826 et pour lequel plus tard, Charles X et Louis-Philippe ont installé les salles du rez-de-chaussée de la Cour Carrée pour les collections égyptiennes que l'on présente et qui par la suite seront largement accrues. Vous savez d'ailleurs que le Louvre est, avec le musée du Caire, le plus grand conservatoire d'antiquités égyptiennes du monde. Et puis, un petit peu plus tard, en 1844, c'est les différentes collections, surtout la collection Botta. Botta était consul de France à Bagdad, et Botta a été un peu le directeur des fouilles de Khorsabad, et c'est lui qui a fait venir en France les fameux taureaux ailés des monuments babyloniens, et c'est lui qui a créé la collection que l'on a appelée d'abord les antiquités assyriennes, que l'on appelle aujourd'hui des antiquités orientales, et en fait, vous voyez comment en 1844, on peut dire que le musée du Louvre, tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ses différents départements parfaitement cloisonnés, département des antiquités égyptiennes, même si administrativement ça n'existe pas, il est fait en 1826, le département des antiquités orientales en 1844, le département des objets d'art à partir de la donation de la collection Durand et Revoil en 1821, le département des antiquités gréco-romaines existait au fond depuis l'Ancien Régime, accru surtout à partir de 1798. Le département des sculptures, à partir du moment en 1821 où les collections de Lenoir entrent au Louvre, le département des peintures, eh bien, au fond, là encore, à partir du moment où Charles X décide d'organiser les salles de peinture, les salles d'exposition des peintures, le département des arts graphiques, là c'est un petit peu particulier, ce que nous appelons aujourd'hui le cabinet des dessins, le 7e département, et ce que nous appelions autrefois le cabinet des dessins, lui n'est né que très tard, vous savez que ce n'est qu'en 1961 qu'il a été formé en département autonome, parce qu'en fait le dessin pendant très longtemps n'a été considéré que comme la préparation à la peinture, donc comme un art secondaire et mineur. Et ça n'est qu'en 1961, c'est-à-dire à partir du moment où la Loterie Nationale a quitté les locaux du pavillon de Flore, que les dessins ont pu être installés dans le pavillon de Flore et réellement ont pu être considérés comme un département du musée du Louvre. Donc vous voyez comment c'est à travers, font toute une évolution de la civilisation, mais une évolution qui remonte très loin, qui remonte à la période d'Antiquité, que se forme la notion de musée. Simplement, en France, elle a eu la chance de trouver ce qu'elle trouvera un peu plus tard en Angleterre, avec le Victoria Albert Museum, ce qu'elle avait peut-être déjà trouvé en Italie avant, dès 1734, avec les papes, et ce qu'elle ne trouvera qu'au XIXe siècle en Allemagne, alors là, c'est vraiment tout à fait à la fin du XIXe siècle, elle avait eu la chance d'avoir la jonction de collections déjà existantes, donc une volonté aussi, une volonté royale de présenter ces collections, et d'un bâtiment qui se trouvait vide, et qui, dès le début, c'est-à-dire dès le XVIIe siècle, a été voué à des aspects scientifiques, donc à l'étude des collections. Donc tout ça, c'est peut-être le hasard, c'est peut-être malgré tout la volonté de Charles V, de Colbert plus que de Louis XIV, je crois que Colbert et Louvois ont été très importants, de Louis XVI, plus important qu'on le dit, car c'est vraiment Louis XVI qui le voulait, Louis XVI était d'ailleurs lui-même très collectionneur, à voir à Versailles la bibliothèque de Louis XVI, c'est Louis XVI qui passe pour un imbécile et qui en réalité était lui-même un homme qui parlait couramment le grec, le latin, et il y a qu'à voir la bibliothèque du roi à Versailles, c'est un homme qui s'intéressait à énormément de choses, et qui a désigné d'Angivillé pour s'occuper de cette affaire-là, et qui l'a chargé des missions d'aller en Italie, d'aller voir, d'aller compléter les collections royales, et puis plus tard, les volontés héritées de César et de Charlemagne de Napoléon, et puis Louis XVIII et Charles X, héritier de Louis XVI, donc de compléter les collections. C'est comme ça, grâce au hasard, grâce à des récurrences de civilisation, grâce à des volontés politiques, que l'on a pu réellement former ce qu'on appelle aujourd'hui le musée du Louvre, qui, comme vous le savez, grâce à la pyramide voulue par notre président, c'est-à-dire à nouveau la volonté politique, est actuellement le plus grand musée du monde. Depuis, il est vrai, reconnaissant qu'il y a là quelque chose de bien, depuis qu'on a réussi à mettre à la porte le ministère des Finances, qui était accroché depuis la fin du 19e siècle à ce palais dans lequel il n'avait pas grand-chose à voir. Donc, le musée du Louvre est certainement aujourd'hui le plus grand musée du monde, en tous les cas, le plus riche, ça n'y a aucun doute, si ce n'est le plus grand, encore que je crois que en nombre de cimaises, en nombre de kilomètres de cimaises, je crois qu'il est de loin le plus important.